Vous êtes à la sortie de la station de métro Saint-Laurent. Dans quelques instants, on va se diriger vers le boulevard Saint-Laurent, communément appelé la Main. Cette artère a joué un rôle important dans l'histoire de la ville. Pour nous en parler un peu, écoutons Robert Petrelli, ancien résident du quartier, aujourd'hui urbaniste et professeur de l'UQAM à la retraite.
Le boulevard Saint-Laurent, c'est l'une des rues les plus anciennes de Montréal. Le chemin Saint-Laurent a été tracé au début du 18e par les Sulpiciens à partir de l'une des portes de l'enceinte de Ville-Marie. Ce chemin public devait permettre d'accéder aux fermes qui se trouvaient à l'île Jésus à l'époque, au 18e, ou encore qui se trouvaient sur les côtes, comme les côtes Sainte-Catherine, etc. Et le boulevard Saint-Laurent va demeurer essentiellement rural au 18e, mais il y a des faubourgs qui vont apparaître. Le faubourg Saint-Laurent date de la fin du 18e. Au 19e, ce sera complètement rempli. Le boulevard lui-même va être entièrement occupé par des industries, des commerces, des hôtels, des scopes, comme on disait à l'époque, des cinémas aujourd'hui. Et ça va devenir, à la fin du 19e, un des pôles industriels de Montréal.
Comme vous pouvez le voir, ce secteur peut paraître un peu maussade aujourd'hui. Pourtant, il a déjà été le centre d'une vie nocturne dynamique et osée, qui attirait les Montréalais et les touristes en quête de plaisirs de toutes sortes. Dirigez-vous vers l'abribus qui se trouve devant vous et tournez à gauche sur le boulevard Saint-Laurent. Continuez ensuite tout droit en direction de la rue Sainte-Catherine. Marchez lentement. Une ancienne résidente qui a habité le quartier entre 1928 et 1950 et qui demeure aujourd'hui aux habitations Jeanne-Mance nous parle un peu de l'ambiance qui y régnait.
C'était un quartier un peu olé-olé, hein? C'était le Red Light qui appelait. C'était bien renommé que les chauffeurs de taxi, c'était leur dépôt. Ils embarquaient et disaient, ben, amène-moi ce qu'il y a de la boisson et des filles. Parfait. Ils emmenaient ici, dans le coin. Le soir, là, ça bougeait.
Des années 20 aux années 60, le cœur de la scène musicale de Montréal est ici, sur Saint-Laurent. Plusieurs cabarets et boîtes de nuit divertissent des milliers de personnes qui fourmillent dans les rues du Red Light. Même si on ne retrouve plus cette effervescence dans le secteur aujourd'hui, des vestiges de cette folle époque s'y trouvent encore. Arrêtez-vous pour quelques instants devant le 1417 Boulevard Saint-Laurent. Oui, il s'agit bien d'un bar de danseuses nues, le Kingdom. Mais imaginez-vous 65 ans plus tôt, à l'endroit exact où on se trouve. C'est ici que se trouvait le Faisan Doré.
Il y a eu des boîtes très célèbres sur le boulevard Saint-Laurent. Il y a eu le Frolics. On dit que ça a été le plus grand cabaret du boulevard Saint-Laurent. Ça, c'est le début des années 30, une boîte ouverte par les New-Yorkais. Il y a eu une boîte très célèbre qui s'est appelée le Faisan Doré, de 47, évidemment, 51 à peu près, où tous les grands noms de France et du Québec sont passés.
Parmi les artistes qui se sont produits au Faisan Doré, on trouve de grands noms de la chanson française. Charles Aznavour, Édith Piaf, Tino Rossi, Charles Trenet, mais aussi des vedettes locales comme Denise Filiatro, Fernand Gignac et Raymond Lévesque. Le Faisan Doré est populaire dans les années 40, principalement. Il est ensuite remplacé par le non moins célèbre Café Montmartre. D'autres boîtes réputées, telles que le Saint-Germain-des-Prés et le Café Saint-Jacques, permettent à de nouveaux artistes québécois de se faire connaître en se produisant sur scène. Continuez à marcher tout droit. Une fois à l'intersection, traversez la rue Sainte-Catherine et arrêtez-vous de l'autre côté, devant l'édifice du 222. Comme vous l'avez sans doute deviné, Saint-Laurent, c'est le repère des bars, des boîtes de nuit et des cabarets. C'est aussi le temple du divertissement pris au sens large. Déjà, en 1896, les premiers cinémas sur pellicule s'installent sur la rue Saint-Laurent. D'ailleurs, c'est sur cette même artère qu'on présente la première projection en Amérique du Nord, au Théâtre Palace, qui était situé un peu plus au sud, au 972 et 976 Saint-Laurent. D'autres cinémas s'installent ensuite dans le secteur. Claude Brochu, un ancien résident du quartier, nous en parle brièvement.
Oui, il y avait quand même pas mal de cinéma. Certains plus douteux que d'autres. Le Midway Cristal, on a fréquenté ça. Il y avait le cinéma qui s'appelait le cinéma français, qu'on fréquentait beaucoup. Il y avait le cinéma Saint-Denis, qui a été à la fois une salle de spectacle et un cinéma. Il y avait aussi une autre salle de spectacle qui était le Monument National.
En 1893, une institution emblématique de la culture populaire canadienne-française s'installe sur la Maine. Situé au 1192 Saint-Laurent, le Monument National ajoute à l'effervescence culturelle du secteur. On peut d'ailleurs le voir d'ici, avec sa grande façade de pierre, de l'autre côté de la rue, plus au sud. L'institution est un véritable incubateur de projets artistiques pour la communauté francophone. On y présente des opéras, des opérettes et de nombreuses comédies musicales. Robert Petrelli nous en parle.
Phénomène important, la construction en 1893 du Monument National, qui était en face du marché Saint-Laurent. Et ça a été conçu par la Société Saint-Jean-Baptiste, justement pour développer et promouvoir la culture canadienne-française. Et il y avait une salle qui s'appelait le Starland. Entre les projections de courts films américains, il y avait des spectacles burlesques. Olivier Guimond, père et fils, Rose Ouellette, dite La Poule, Juliette Béliveau, et puis il y en a d'autres aussi beaucoup qui ont joué là.
Dans les années 70, le Monument National est vendu à un philanthrope qui en fait cadeau à l'École nationale de théâtre. L'École nationale en est d'ailleurs toujours le propriétaire aujourd'hui.